Les personnes ont besoin de savoir que Jésus, déjà en Jean chapitre 17, il avait déjà prié pour nous, prié pour nous tous. Il va affirmer trois choses. Il va dire, ils sont à moi. Alors, il faut leur dire. On a parlé que à la convention hier, il était question de la paternité. C'était Mélodie qui parlait de la paternité du Père. Ils sont à moi. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Ma parole est en eux. Donc ça, c'est vraiment important d'apprendre aux personnes à ce que la parole de Dieu soit en eux, qu'ils aient une réceptivité de cœur pour la recevoir. Et après, il dit, je prie pour vous. Je prie pour vous. C'est trois choses qui peuvent vraiment rassurer. Vous savez, dans la Bible, on trouve à 66 reprises la phrase « Ils sont à moi, mon peuple. Ils sont à moi. » On trouve 43 fois la notion d'être un avec le Père. Je ne vais pas parler de la paternité de Dieu à notre égard ce matin, mais je voudrais simplement revenir sur le fait que nous sommes à lui. Et si nous sommes à lui, il veut accomplir son œuvre en nous. Nous ne pouvons pas rester indifférents à l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit qui veut nous interpeller, qui veut nous toucher, qui veut nous faire nous prosterner, comme on a chanté à deux reprises ce matin. Prosterner, nous t'adorons. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, à ton écoute. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Et nous sommes là pour accomplir ses projets. Et nous sommes là pour transmettre le sentiment de son cœur. Mon père avait un message qui s'appelait « Avoir les lentilles de contact de Jésus. Voir avec le regard de Jésus. Avoir un pacemaker de Jésus. » Que notre cœur batte par rapport à ce qui fait battre le cœur de Dieu. Jean chapitre 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu as été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un. Comme nous. Nous voyons à plusieurs reprises dans la Bible quand Dieu est à la recherche d'un peuple. Bien sûr, la plupart des 66 fois qu'on parle du peuple de Dieu, cela parle de ce que les prophètes ont dit quand ils décrivaient la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Bien sûr, il y a beaucoup de prophéties aujourd'hui que nous voyons s'accomplir, qui auront vraiment auront à voir avec le peuple d'Israël. Mais aussi, il y a cette même notion du cœur de Dieu pour nous, le fait qu'il cherche un peuple, qu'il le cherche, il cherche un peuple qui le loue, il cherche un peuple qui l'adore, il cherche un peuple qui le suit, il cherche un peuple attentif. Quand il est cantique, nous dit « Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui ». Il fait partie son troupeau parmi les 10. Il est notre berger, on ne manquera de rien. Il nous fait reposer dans des verts pâturages, près des eaux paisibles. Il nous conduit sur les sentiers de la justice et il restaure notre âme par amour de son nom. N'est-il pas ton Père, ton Créateur, de Deutéronome 32? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Ésaïe 49 nous dit qu'il a fait de nous une flèche aiguë. Il nous a appelés depuis le ventre de notre mère. Et il nous a mis à part. En Jérémie chapitre 1, il met à part Jérémie depuis avant sa naissance. Il y avait quelque chose de particulier qu'il voulait lui communiquer et lui dire, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu n'es plus sous l'emprise du Dieu de ce monde, du diable, du Satan, mais tu es sous mon regard. Quelqu'un me disait l'autre jour, ah mais chaque fois que je sors le matin, je cite le psaume 91, celui qui habite à la ville du Très-Haut, repose en l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, il te guidera, il te protégera, etc. Et je dis, mais est-ce que tu es à l'abri du Très-Haut? Est-ce que tu es soumis à Dieu? Ah non, 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 ça c'est inverse, ça c'est quelque chose que je répétais depuis mon enfance. Je dis, mais ça ne marche pas comme ça. Si tu veux être à l'abri du Très-Haut, si tu veux véritablement être à lui, alors c'est sûr et certain, il y a un pas à faire. Et il faut faire comprendre aux nouveau-nés dans la foi, il faut faire comprendre à chaque personne, et chaque personne qui s'est dit disciple de Jésus, nous sommes à Dieu, nous sommes à lui. Nous sommes consacrés à lui. Nous regardons en 2 Corinthiens chapitre 6, il dit que nous ne sommes pas donc n'importe qui, nous sommes le temple de Dieu vivant. Alléluia. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Si nous sommes à lui, nous vivons pour lui. En Romains chapitre 14, il dit, soit que nous mourions, soit que nous vivions, nous sommes au Seigneur. C'est pour ça que Paul pouvait dire que pour lui, mourir était un gain. C'était un gain. Pourquoi? Parce que nous sommes en lui. Nous vivons pour lui. C'est en lui, la Bible dit en Actes chapitre 17, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et chaque matin, nous nous plaçons devant lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Pour que je puisse grandir dans ma relation avec toi. Je suis à toi, Seigneur. Tu as payé un prix. La Bible dit qu'il a payé par son sang précieux. Il y a des versions aujourd'hui, si vous les voyez, il ne parle plus de sang précieux de Jésus dans le livre de Pierre. Il dit c'est par la mort de Jésus. Ne restez pas à la mort de Jésus, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous avons été sauvés et que nous sommes lavés. Chaque jour, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors nous sommes à lui. Il a payé un prix. Du moment qu'il a commencé à dire, Adam, où es-tu? Il a envoyé Jésus. Du moment que Dieu a commencé à se donner de la peine pour chercher Adam et Ève, à ce moment-là, il savait que sans effusion du sang, il n'y avait pas de pardon des péchés. Il savait que le moment viendrait quand Jésus-Christ irait sur la croix. Nous sommes à lui. Il nous a achetés. Colossiens chapitre 1 nous dit que nous sommes créés pour lui et par lui. Tite chapitre 3, verset 3. Tite. Chapitre 3, juste avant Philémon, Hébreu, nous dit, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de sa vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ils sont à moi. Père, tu me les as donnés. Ils sont à toi, Tu me les as donnés et je prie pour eux. Et parce que je prie pour eux, je sais qu'ils vont s'en sortir. Je sais qu'ils vont être fidèles à la mission pour laquelle nous les avons mis à part. Parce que j'ai prié pour eux, parce que j'intercède aujourd'hui encore, il te dirait, tu vas t'en sortir par la grâce de Dieu. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Il y a tant à dire sur le fait que Dieu est notre Père. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à Christ et ils savent que c'est par Christ qu'ils arrivent au Père, à la présence du Père. Mais quand ils sont dans la présence du Père, ils ne savent pas comment se relationner avec le Père. Pourquoi ? Parce que le vécu avec leur Père terrestre ou leur absence du Père terrestre a été tellement, tellement flagrant. Ils ne savent pas s'identifier. Ils ne peuvent pas. Et aujourd'hui encore, ils disent, mais j'aimerais avoir cette relation avec le Père, mais ce que j'ai vécu avec mon Père terrestre, l'absence, la négligence peut-être, donc la dureté. Chaque fois que je pense à Dieu comme mon Père, je pense à mon Père terrestre. Le Seigneur doit changer ta mentalité, parce qu'il veut te montrer ce qui est vraiment le cœur d'un Père. Ils sont à moi. Ils sont à moi. Père, nous avons un projet. Alors, je prie pour eux. Ma parole est en eux. Alors, si la parole est en eux, Père, je sais aussi qu'ils vont s'en sortir. Vous vous rappelez, à un moment donné, en Jean chapitre 17, verset 15, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Ne les ôte pas de ce monde, mais sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est en eux. Jean 14, verset 15, vous savez, il y a quelques années, on a mémorisé Jean 14, 15, 16, 17, pour ceux qui étaient là à l'époque. Alors, en lisant ces passages, vous allez avoir des rappels qui vont revenir. Mais Jean 14, chapitre 15, nous dit, et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne le laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En Jean chapitre 3, quand il parle du fait que si nous disons que nous aimons notre frère, mais qu'en fait, dans nos gestes, dans nos actes, on ne manifeste pas de cet amour. Il dit, aimons en parole et en vérité. Et en action, pardon. Pas seulement en parole, mais en action et en vérité. Et après, il dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance auprès de Dieu. Vous êtes rassuré, vous savez, dans votre sécurité, votre certitude est en lui. Et ensuite, il dit, et si vous gardez mes paroles, mon amour demeurera en vous. Ma parole est en eux. Ma parole est en eux. Vous savez, chaque fois qu'on entend un verset de la Bible, chaque fois qu'on lit un verset, chaque fois qu'on entend un message, il nous arrive ce qui est décrit en Matthieu chapitre 13 ou Luc chapitre 8 dans la parabole du semeur. Il y a les quatre sortes de terres dans lesquelles la semence va tomber. Et vous pouvez lire la parabole, mais je vais insister sur la meilleure terre, la bonne terre, celui qui a reçu la semence. Dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport au fruit que nous portons? Si nous avons reçu la semence, c'est arrosé par l'eau de la parole, selon Éphésiens chapitre 5. Nous avons donc des fleuves d'eau vive qui jaillissent de notre fort intérieur. Cette parole, elle est arrosée. Pour rappeler, donc comme Paul disait, moi j'ai sémé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance, c'est Dieu qui fait croître. Alors il y a un fruit que nous devons porter lorsque nous avons compris la parole de Dieu. Si sa parole est en nous, ça va nous pousser jusqu'à comprendre quel est son dessein. Quel est le dessein de Dieu pour ma vie et comment je peux porter des fruits. Quand on accepte la parole de Dieu, il y a un changement. Vous vous rappelez en Actes chapitre 2, verset 41, ceux qui entendent dire, ceux qui acceptèrent la parole, ils n'ont pas seulement dit, voilà, je m'inscris, mais ils ont accepté la parole jusqu'à être baptisés. Et le nombre de disciples a augmenté ce jour-là de 3000 âmes. Il y avait quelque chose, il y avait, en Jacques chapitre 1, il dit qu'il faut avoir un cœur réceptif. Il ne faut pas avoir de l'amertume, il ne faut pas permettre la contamination donc du monde vient pour essayer de filtrer si nous allons recevoir la parole de Dieu avec douceur ou pas. En Actes chapitre 17, verset 11, il y avait les Béréens qui acceptaient la parole avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que les apôtres disaient était vrai. Est-ce que vous avez cette réaction ? Ah, j'ai entendu un message, mais moi je vais m'empresser et examiner les Écritures pour voir si ce qu'on prêche à l'église pour espérer un mot est vrai ou non. C'est pas grave, allez-y. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient reçu la parole avec empressement. Et ils voulaient être sûrs que ce qu'ils recevaient était suffisant pour les faire grandir dans leur relation avec Dieu, mais aussi pour les faire comprendre quel était le dessein et l'appel de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 10 nous dit que la parole de Dieu est en nous. Il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu que vous recevez va donner la place à ce que l'action du Saint-Esprit sous cette parole s'accomplisse. La parole de Dieu agit en vous qui croyez. Si nous recevons sa parole, alors nous serons attentifs. Nous allons entendre sa voix. Jean chapitre 10, je suis le bon berger. Mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. Elles ne suivent pas la voix d'autrui. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tellement, tellement imprégnées de ma voix. Elles sont tellement imprégnées aussi de cet amour que j'ai pour elles en tant que brebis. Elles me connaissent, elles connaissent ma voix et elles me suivent. Ma parole est en eux. Ils sont à moi, ma parole est en eux. Alors c'est vrai que dans le passé, nous avons mémorisé deux versets par semaine, à plusieurs reprises, plusieurs années. Pourquoi pas l'année prochaine, peut-être, on pourrait recommencer. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu en nous. Pas faire que de l'abondance du cœur, notre bouche parle. La parole de Dieu en nous va nous donner la certitude que, comme il est dit en Ésaïe chapitre 55, ma parole ne peut pas revenir sans avoir produit un effet chez ceux qui l'entendent. Chaque fois que j'allais voir M. Ahmed, donc dans les trois dernières années, je l'ai vu au moins une dizaine de fois, chaque fois que je le voyais, il me disait, non, moi je ne crois pas en Dieu. Et moi je lui citais les versets. Mais vous savez, la Bible dit que Dieu montre son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, chaque fois que je lui parlais, je me rappelle deux, trois fois, j'ai voulu prier avec lui, il ne voulait pas que je prie. Et je n'ai pas prié. Mais là maintenant qu'il est sur son lit de mort, tout d'un coup il dit, ah, je me rappelle, il y a des choses qui m'ont touché. Moi, j'ai eu affaire une fois au Mexique à un homme, un architecte qui s'était converti. Il avait dans son cabinet d'architecture avec toutes ces personnes qui travaillaient pour lui. Il a vraiment vécu une transformation totale dans son cœur. Et alors, je devais aller le rencontrer, donc à 19h un soir. Et à 17h, il m'appelle, il me dit, ah, vous savez, voilà, j'oublie de vous dire qu'il y aura des témoins de Jéhovah, des mormons, des bouddhistes, des moons, voilà, il y a plein de religions. Il faut que vous soyez vraiment, vraiment versés là-dedans parce qu'ils vont vous poser des questions. C'est d'accord ? Ah, et il vous demande de ne pas amener votre Bible. C'était des universitaires, des professeurs et des étudiants. Bah, pas amener votre Bible. Ah bon, d'accord, ok. D'accord, je n'avais pas ma Bible. Et j'arrive donc dans cette grande maison très riche, dans la haute société de Mexico. Il y avait 25 personnes présentes. Je dis, mais qui a la première question? Il y a une jeune fille qui a dit, tu commences et on va t'interrompre. Voilà. Donc j'ai commencé. J'ai commencé. Et j'ai commencé avec Adam et Ève, la Genèse, des universitaires. Vous savez qu'ils avaient des questions. Et j'ai commencé à parler. Une heure et demie après, aucune question. Je disais, est-ce que vous avez des questions? Non, vas-y, continue. Au bout de trois heures, j'ai fait un appel à la conversion et 24 de 25 se sont mis à genoux et ont reçu Christ dans leur cœur. Il y a une fille qui a dit, mais on pensait donc faire que tes cheveux deviennent blancs. Aujourd'hui, ils sont blancs, mais à l'époque, ils étaient blancs. Alors, on voulait vraiment qu'ils deviennent gris et blancs avec nos questions. Mais quand tu as commencé à parler, on ne pouvait rien dire. Pourquoi? C'était la parole de Dieu. Ce n'est pas ma Bible. Mais la parole de Dieu était dans mon cœur. Mes parents m'avaient encouragé, m'avaient nourrissé beaucoup, dans mon enfance. Et je me rappelle, à la fin, il y a eu un jeune homme qui est venu vers moi, très très grand, qui me dit, c'est moi qui ai à la tête des 75 000 communistes à l'université de Mexico. Donc, je ne pouvais pas me mettre à genoux, mais est-ce qu'on pourrait aller dans une pièce? Vous pourriez prier pour moi là-bas? Alors, j'ai prié avec lui. Deux mois après, deux des filles qui étaient présentes sont mortes dans un accident. Donc, de justesse, Dieu savait qu'elles avaient besoin d'entendre la parole de Dieu. Et le fruit de cela, c'était que quelques années après, je suis retourné et j'ai vu des personnes qui s'étaient converties ce soir-là. Moi, je suis parti pour la France. Donc, je n'étais plus là-bas pour voir s'ils allaient devenir disciples ou non. C'était une situation très, très, très particulière. Donc, c'était une soirée comme ça. J'avais deux, trois donc, jeunes de l'église qui étaient avec moi. Et donc, des années après, j'ai vu que le fruit restait parce que Dieu avait utilisé sa parole. Sa parole est en nous. Sa parole est en nous. Ma parole est en nous. Et alors, Jésus dit, alors, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Parce qu'ils ont besoin de prière. Vous vous rappelez Pierre? Ah, Pierre. Tu sais, Pierre, il y aura un moment dans lequel tu vas être tenté. Satan va vouloir te cribler comme le froment. Tu vas te sentir le pire de pire. Mais ne t'inquiète pas, Pierre, j'ai prié pour toi. Combien de fois j'entends cette voix dire, ne t'inquiète pas, j'ai prié pour toi. Ne t'inquiète pas, je prie pour toi. La Bible dit qu'il intercède pour nous. Romains chapitre 8, Ésaïe chapitre 53. Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il a intérêt à ce que nous avancions avec lui et que nous en sortions en marchant avec lui et en accomplissant sa volonté. Amen. C'est pour eux que je prie. La Bible dit en Ésaïe 53 qu'il prie pour les pécheurs. Premièrement, il prie pour les pécheurs. Quand tu étais pécheur, il déjà était en train d'intercéder pour toi, de prier pour toi. Quand tu étais loin de la maison de Dieu, loin de la foi, il priait déjà pour toi. Regardons Ésaïe 53. Il dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est un verset qui est difficile à comprendre. Comment est-ce qu'on pourrait dire qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance? Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Ésaïe 53, verset 10. Et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Nous avons été justifiés par lui. Alléluia. Nous sommes justifiés aujourd'hui grâce à lui. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Quand tu étais coupable, quand tu étais condamné par le péché, un sentiment de détresse totale, Jésus priait pour toi. Romains chapitre 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avant cela, il dit, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous-mêmes, Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Personne ne les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Quand nous sommes dans un moment de faiblesse, comme Pierre l'a été, nous entendons sa voix, ne t'inquiète pas, j'ai prié pour toi. Et moi, j'utilise ça et j'essaie de vous lancer un défi. Qui c'est que tu peux rassurer en lui disant, tu sais, t'inquiète pas, j'ai prié pour toi. T'inquiète pas, j'ai prié pour toi. J'aime beaucoup dans Samuel 12, 23. 1 Samuel 12 et verset 23. C'est une attitude que Samuel avait envers le peuple. Et il dit au verset 21, ne vous en détournez pas, 1 Samuel 12, 21. Sinon vous iriez auprès des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses du néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire debout son peuple. Et il disait ceci, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, si je cesserai de prier pour vous. Quelle attitude! Mais quelle attitude avait Jésus? Il a prié pour les pécheurs, il a prié pour les coupables. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous a attirés avec des cordages d'amour. Et quand on raconte notre témoignage, on raconte de comment Dieu nous a attirés à lui. Comment Dieu nous a donc rapprochés de lui. Ensuite, il prie pour nous. Il prie pour nous dans nos défaillances, mais il prie pour nous aussi dans nos victoires. Il intercède pour nous. Et aussi, il intercède pour l'Église. En Jean chapitre 17, revenons. Si vous continuez à lire ce chapitre, qui est vraiment un chapitre à mémoriser, verset 12, lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je l'ai gardé en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, c'était Judas, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'écris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quand tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole. Ils priaient déjà pour l'Église. Ils priaient déjà pour ce qui allait se passer le jour de la Pentecôte. Ceux qui croiront en moi par leur parole. Il attend à ce qu'il y ait des personnes qui croient en lui par notre parole. Nous avons cru par leur parole. Par qui? La parole de qui? Que sais-je? Comment est-ce que la chaîne de multiplication, comment est-ce que les maillons d'amour se sont entrelacés? Et il y a eu des personnes qui ont été fidèles au fil des générations. Et jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons Jésus parce qu'il y a eu des personnes qui ont été fidèles. Et nous avons cru par leur parole. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui vont croire par notre parole. Et que la prière de Jésus ne soit pas en vain. Lui, il a déjà prié pour les personnes qui vont croire par notre parole. L'Église. La future Église. Nous sommes affiancés pour le moment. Nous nous préparons pour la rencontre avec le roi des rois. Il s'est donné pour nous, la Bible dit. Nous portons un habit sans rides, sans tache, ni rien de semblable, qui représente cette marche dans l'esprit, cette marche dans la voiture, cette marche dans la sanctification. Il prie pour l'Église. Ses prières ne sont pas en vain. Ça nous rassure. Il intercède à notre faveur. Prions. Seigneur, nous te remercions ce matin parce que nous sommes à toi. Nous sommes à toi, ta parole est en nous, et tu pries pour nous. Quel réconfort de savoir, Seigneur, que peu importe les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver, ton regard est sur nous. Si ton regard est sur le moineau, comme la plus forte raison. Nous savons que tu veilles sur nous. Seigneur, combien de fois nous désespérons, nous sommes dans l'inquiétude. Combien de fois nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir par rapport à certaines choses, certaines situations. Et on se dit, Seigneur, on baisse les bras. Mais non, mais non, mais non, mais non. Nous sommes à lui, alléluia. Il est à nous. Nous sommes en lui. Nous sommes en lui, il est en nous. Nous sommes demeures de Dieu en esprit. Sa parole est une lampe à nos pieds. Lumière pour notre sentier. Sa parole que nous aimons, sa parole à laquelle nous soumettons, je fais plier ma volonté face aux paroles qui sortent de sa bouche. Sa parole est en nous. Cela nous donne une identification avec tous ceux qui s'identifient être un peuple de la parole. On pense à nos frères et sœurs dans l'église persécutée qui doivent peut-être arracher les pages de la Bible pour pouvoir les transmettre, les partager, pouvoir les prêter aux autres pour qu'ils puissent voir aussi ce qui est écrit. Merci Seigneur parce que par les portes ouvertes et par l'église persécutée, et par le ministère envers l'église persécutée, ta parole est en train d'être connue dans le monde entier. Et il y a des pays dans lesquels il est interdit d'avoir des Bibles, il est interdit de prêcher ouvertement. Mais sur ta parole ne peut pas rester liée. Ta parole, Seigneur oh Dieu, elle est utilisée pour ceux pour lesquels tu l'as envoyée. Et quand nous ouvrons notre bouche, aucune parole, Seigneur, qui sort de ta bouche peut revenir sans avoir produit un effet chez ceux qui l'entendent. Ainsi en est-il de ma parole. Et Seigneur, merci parce que tu intercèdes pour nous. Parce que tu pries pour nous. Et tu nous donnes aussi un cœur d'intercesseur. Et tu nous donnes aussi, Seigneur, de comprendre comment, Seigneur, oh Dieu, c'est vital. C'est vital que chacun de nous, Seigneur, on sache que nous sommes entourés par tes bras d'amour, comme nous l'avons chanté. Nous sommes, Seigneur, à l'écoute de ta tendre voix. Je te demande, Seigneur, vraiment que ce matin, chacun de nous, nous soyons encouragés, nous soyons fortifiés dans notre foi, fortifiés dans notre résolution de vivre pour toi, coûte que coûte. Et Seigneur, nous avons ce message si merveilleux à transmettre. Et à donner. Nous ne voulons pas, Seigneur, être ingrat. Nous ne voulons pas être, Seigneur, oh Dieu, infidèle. Infidèle de nous taire et de dire, ça sera pour une autre fois. Nous ne savons pas à quel moment, Seigneur, telle personne ira dans son éternité. Et nous, cela fait la différence dans l'éternité des personnes qui nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ.